Siméon, je suis tout ouïe. J'écoute votre question avec plaisir.
Par rapport à la courbe de démocratie-conflit,
Oui.
je me demandais si on avait réussi à faire la distinction entre l'État qu'on pourrait appeler transitoire entre une dictature et une démocratie, ou entre, par exemple, des régimes qui sont un peu entre les deux, au milieu, mais qui resteraient durablement entre les deux.
Alors, en fait, c'est effectivement, je pense que je n'ai pas été assez précis hein, au moment de mon explication sur ce point-là. L'idée, si vous voulez, c'est que le moment où on observe le plus d'événements violents, c'est au moment transitoire que vous venez de définir. Hein, c'est vraiment quand on passe sur une transition démocratique où, si vous voulez, vous avez le plus d'instabilité parce que vous avez un pouvoir en place qui, historiquement, était autocratique, autoritaire, qui voit bien que son pouvoir, sa mainmise sur le pays se délite, qui essaie quand même de le rattraper d'une manière ou d'une autre, et de l'autre côté, une population civile qui, elle, prend conscience de la possibilité de changement politique possible, en même temps qui se confronte à un État qui ne veut pas forcément laisser ce processus de démocratisation se faire. Et donc, du coup, vous pouvez avoir à ces moments-là la création de groupes armés. D'accord? Donc, c'est vraiment cette période de transition, quand on regarde vraiment le lien entre système politique, autocratie, démocratie et conflit, c'est vraiment sur cette période de transition qu'on identifie le plus d'événements violents. Loin de moi le fait de dire que c'est toujours à ce moment-là qu'on observe les événements violents. On en observe dans des autocraties, on peut en observer dans ce qu'on peut considérer comme des démocraties également. Mais en moyenne, statistiquement, ce que nous dit la littérature, c'est que c'est plutôt sur ces phases-là. Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair.
Oui, mais d'accord. Du coup, c'est essentiellement une dimension, enfin, c'est plus diachronique que directement dans l'index de démocratie. Enfin.
Alors, vous posez là, c'est une bonne question. C'est une littérature qui est compliquée pour la raison que vous mentionnez, c'est que les indicateurs de démocratie sont souvent influencés par la conflictualité. C'est un bon point. En ce sens, j'aurais du mal à vous dire, je voudrais que je vous dise, il y a une corrélation non linéaire, fameuse courbe en U, inversée. Je me garderais bien de parler d'effet causal entre processus de démocratisation et conflit. Parce qu'aujourd'hui, c'est. À ma connaissance, la littérature ne peut pas arguer d'un effet causal. Alors, est-ce que la FAO a un rôle important dans la diminution de ces conflits? Alors, c'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est compliqué de pouvoir vous quantifier, de pouvoir vous répondre vraiment sur dans quelle zone, dans quelle région, à quelle période la FAO a pu avoir un rôle. Si vous voulez, il y a un certain nombre, pour vous raconter une petite anecdote, une anecdote, un vécu. Il y a quelques années, nous avons travaillé avec certains des co-auteurs avec qui je travaille, notamment Nicolas Berman et Mathias Tönning, à conseiller la Banque mondiale, parce que dans la région des Grands Lacs en Afrique, il y avait la question de faciliter le commerce entre les pays. Et on les avait alertés en disant, mais vous savez, quand vous ouvrez des pays au commerce, quand vous facilitez le commerce entre les pays, on le sait, on a de la littérature depuis 20 ou 30 ans, l'ouverture au commerce crée des gagnants, crée des perdants. Maintenant, quand vous êtes dans des pays et des zones comme la région des Grands Lacs africains, des gagnants et des perdants dans une zone où il y a eu historiquement des conflits, des génocides et où il y a eu des tensions à la fois religieuses et ethniques. Bah, du coup, il faut bien faire attention de comprendre où vont être les gagnants et les perdants. Et du coup, je crois, notre analyse a permis de donner un nouveau regard au type de politique qu'ils ont mis en place au niveau de cette libéralisation du commerce. Donc, c'est compliqué de dire à quel point et de combien ça a pu diminuer les conflits, si tant est que ça les a diminués. Mais ce qui est sûr, c'est que dans l'implémentation de la politique, ils ont été alertés, ils ont eu un rapport qui a permis de mentionner l'importance et la nécessité de ne pas prendre une mesure politique de libéralisation commerciale sans tenir compte des équilibres nationaux et régionaux. Okay. Donc sur la FAO, j'ai envie de dire oui. Après, est-ce qu'il est important, je ne saurais pas vous dire exactement. Alors, j'ai une question de Guy. En général, la baisse des matières première provoque des conflits sociaux, pas la hausse. Alors, C'est ce que j'expliquais tout à l'heure hein, dans le cas de la Colombie. Hein. C'est parler de matières premières. Est-ce qu'on parle de biens agricoles? Est-ce qu'on parle de minerais? D'accord. Si vous prenez le cas de biens agricoles, une baisse du prix des biens agricoles va engendrer un niveau de richesse moindre dans certaines régions. D'accord. Et ça, ça signifie que votre coût d'opportunité baisse et donc on observe plus de violence. Statistiquement et théoriquement, c'est ce que nous avons. Maintenant, si vous regardez dans le cas des minerais, bah, une baisse effectivement du prix des minerais, bah, ça, par contre, effectivement, ça peut venir réduire la violence par rapport au mécanisme que j'ai renseigné, c'est-à-dire que les groupes armés ont moins d'incitation à aller se battre dans une zone, ont moins d'incitation, moins de possibilités de corruption, de recherche de rente, etc. D'accord ? Donc, la baisse des matières premières, il faut vraiment faire la distinction entre ce que c'est. Est-ce que c'est une question de minerai? Est-ce que c'est une question de biens agricoles? Okay. Alors, Michel pose la question de est-ce qu'on peut expliquer les conflits en Afghanistan? Alors, j'ai des collègues qui essaient de les expliquer avec ces mêmes chocs de revenus. Et la culture du pavot? La réponse est oui. La réponse est possible. Alors, donc moi, je n'ai pas travaillé sur cette question-là, mais de mes lectures de collègues qui ont travaillé sur ces questions, la réponse est positive. Oui, et c'est en fait un mécanisme pareil. Ça crée du revenu et en fait, c'est des revenus qui vont servir en fait à nourrir les conflits. De la même manière, il y a un article d'une chercheuse qui a pris une sorte aujourd'hui qui est passionnant sur le rôle en fait de la coca en fait sur la conflictualité notamment au Pérou. Hein, et elle montre des choses effectivement que l'augmentation du prix donc du coup la coca hein, pour la cocaïne a un effet extrêmement important sur ces activités qui vont nourrir ensuite un certain nombre de spécialisations de ces individus dans la culture de la coca et donc potentiellement les amener après sur plus de violence. Arthur qui me demande est-ce que la nationalisation des entreprises qui gèrent les minerais réduit-elle la conflictualité? Alors c'est une bonne question. De notre étude et de la connaissance que j'ai de la littérature, c'est très compliqué d'avoir cette conclusion-là précise. Pour une raison, c'est que nous, ce qu'on constate, c'est que quand vous prenez un pays, vous avez, disons, deux types de firmes qui peuvent posséder les mines, des firmes nationales et des firmes étrangères. D'accord ? Ce qu'on constate, c'est qu'au sein des pays, pour une hausse de prix donnée, on observe plus de conflictualité dans les zones où il y a des firmes étrangères par rapport à des firmes nationales. Il y a plusieurs explications à ça. La première, et qui est un peu documentée quand même dans la littérature, c'est que l'État va avoir tendance à protéger mieux les zones minières quand il y a des firmes nationales qui les exploitent. Donc peut-être qu'on a un mécanisme, si vous voulez, de report de la violence, qui est que du coup, bah, ces firmes étrangères, elles sont moins bien protégées et donc elles vont aussi avoir tendance, si vous voulez, à peut-être plus discuter avec ces groupes armés, à avoir plus de processus de corruption. Et donc, de fait, c'est pour ça qu'on observe une différence de conflictualité dans ces zones-là. Maintenant, si c'était que des firmes nationales, d'accord, donc pas forcément en nationalisant les entreprises, mais si c'était que des firmes domestiques qui s'occupaient de l'exploitation, ben là, l'effet, c'est compliqué de dire ce qui pourrait se passer. Parce qu'en fait, ben, si les groupes armés n'ont plus de firmes étrangères sur lesquelles pour lesquelles ils peuvent avoir l'extorsion, ben, peut-être qu'en fait, elles vont se reporter sur d'autres firmes nationales. Donc, c'est difficile de savoir quel est l'équilibre général, si vous voulez, de ce type de politique. Le deuxième problème, c'est qu'il est probable aussi que les firmes nationales aient tendance à choisir les zones d'exploitation qui, historiquement, sont les moins conflictuelles. D'accord ? C'est-à-dire que ces firmes-là vont d'abord choisir, je dirais, les zones les plus productives, les plus faciles, et les firmes étrangères vont, elles, par contre, se projeter, aller produire dans des zones qui sont par nature, par définition, plus conflictuelles. Et donc, du coup, ce qu'on observe, c'est peut-être un peu tautologique, c'est uniquement que bah, les firmes étrangères vont plutôt dans les endroits où il y a de la conflictualité parce que les firmes nationales ne veulent pas y aller. Donc, voilà, nous, ce qui nous semblait intéressant là-dedans, c'était d'essayer de voir hein, qu'a priori, les firmes, le comportement des firmes, un rôle à jouer dans la relation entre exploitation des minerais et conflictualité. Vous prenez l'exemple de la Farge que je mentionnais tout à l'heure. On a un cas d'école d'une entreprise qui a un rôle à jouer dans le conflit de par son activité production. D'accord ? J'espère avoir répondu à votre question, Arthur. Sinon, n'hésitez pas à revenir vers moi. Il y a une question de Cabus sur quel exemple pour la réduction des conflits par la redistribution des profits des matières premières? Alors, c'est une excellente question. Il y a une littérature riche en économie du développement, en sciences politiques, sur le rôle des ressources naturelles et comment est-ce que les ressources naturelles profitent, si vous voulez, aux communautés locales. Et l'article fondateur, c'est un article de 2013, écrit par Juan Pablo Rudd et Juan Vargas également, sur la deuxième plus grande mine au monde d'or au Pérou. Et ce qui montre, et il y a d'autres études hein, qui ont répété et qui ont vu ça, c'est que dès lors que vous avez des entreprises qui exploitent des minerais, mais qui vont se fournir notamment avec des sous-traitants, qui vont employer des travailleurs qualifiés ou non qualifiés aux alentours, on a des effets de redistribution via des mécanismes de marché qui sont très importants. Donc déjà, un premier mécanisme, ça serait que les entreprises soient beaucoup plus inclusives avec le tissu économique et social dans lequel elles produisent. Hein. Et on a d'autres cas pour la Zambie où on a aussi ces effets de redistribution positifs via ces mécanismes de marché. Donc ça, c'est un premier élément, c'est qu'il pourrait y avoir une vraie volonté des firmes qui exploitent ces minerais de redistribuer plus au niveau local. Si vous redistribuez plus au niveau local par ces mécanismes de marché, dans ce cas-là, obligatoirement, le coût d'opportunité augmente pour ces individus. L'autre possibilité, et là on a aussi des évidences, ça serait qu'une partie de la taxation de ces ressources, notamment ce qu'on appelle les royalties, soit reversée au niveau local. D'accord? Et si c'est reversé au niveau local par des investissements d'infrastructures, en hôpital, en école, en infrastructures routières pour le développement économique, on peut là aussi s'attendre à une augmentation de l'activité économique, une augmentation de la richesse et donc une redistribution qui est plus importante et de fait, pareil, un coût d'opportunité qui augmente. D'accord? Donc, on a, quand vous prenez la littérature sur conflit, quand vous prenez la littérature sur ressources naturelles et développement, on a des évidences statistiques et théoriques qui nous disent, oui, s'il y a plus de redistribution, on devrait réduire les inégalités au niveau local, on devrait augmenter les coûts d'opportunité, donc on devrait observer moins de conflictualité. D'accord? Alors, quels sont les effets sur les conflits, des blocus et des boycotts? C'est une bonne question. Alors, on n'a pas de quantification précise des blocus et des boycotts. C'est souvent ma compréhension de la littérature là-dessus, des effets qui ne sont pas très importants, notamment pendant le cas des minerais. Il y a beaucoup de détournements, c'est-à-dire qu'il y a eu des mécanismes de transparence ou d'interdiction d'exporter, notamment liés avec le Dodd-Frank il y a une petite dizaine d'années pour tous les minerais qui venaient de la RDC et de la République démocratique du Congo, excusez-moi, et des pays limitrophes. Et des travaux récents hein, nous montrent qu'il y a quand même une diversion du commerce, c'est-à-dire que effectivement, la production a baissé dans ces pays-là, mais elle a très fortement augmenté dans d'autres pays, dont certains ne produisaient pas du tout de minerais. Et donc, il y a eu certainement des effets de diffusion, de contournement de ces boycotts et blocus. Donc, voilà, ça, ce n'est pas clair, c'est sur la question des minerais. Après, si votre question elle est un petit peu plus large, sur les blocus économiques qui peuvent avoir fait certains pays, tous ces processus-là qui contribuent à appauvrir des sociétés, à appauvrir des communautés, à appauvrir les individus, je pense que l'effet global généralement de ce type de politique, c'est quand même un effet, enfin, que ça accentue la conflictualité. À nouveau, si vous baissez le revenu des individus, si vous les rendez plus pauvres et qu'il y a plus d'inégalités et que vous avez plus de griefs, bah vous allez augmenter la conflictualité et toutes les études pointent dans ce sens-là. Donc, tout élément qui pourrait accentuer les inégalités, baisser les revenus ou augmenter les griefs augmente mécaniquement la probabilité d'observer des conflits. Est-ce que vous avez d'autres questions?
Moi, j'avais une question.
Léna, je vous écoute.
Sur est-ce que, enfin, je crois qu'on sait que les ressources naturelles, notamment les biens agricoles, ont une volatilité des prix très importante. et enfin plus importante que d'autres biens. Et est-ce que ça a un impact sur les conflits ou pas spécialement?
Alors, si, effectivement, c'est une bonne question. La volatilité contribue aussi à la conflictualité. Alors, souvent par d'autres mécanismes, parce que qui dit volatilité dit prévisibilité, si vous voulez, pour les comptes publics qui est moins importante, des effets d'aubaine qui sont plus importants. Et donc, du coup, c'est par d'autres mécanismes, mais la volatilité, elle contribue effectivement, mais aussi parce que, imaginez, hein, vous êtes producteur. Votre revenu de subsistance, il est essentiellement issu de la vente de quelques biens agricoles. Si vous avez très peu de perspectives et que vous voyez des prix qui, du jour au lendemain ou d'un mois sur l'autre, peuvent extrêmement varier, bah, du coup, vous allez avoir votre coût d'opportunité qui va monter, baisser, monter, baisser. Obligatoirement, ça va avoir un effet sur la décision individuelle de pouvoir intégrer un certain nombre de groupes armés. Donc, cette volatilité, c'est sûr qu'elle a un rôle à jouer. Sur l'analyse que je vous montrais, hein, sur le fait que 25% des conflits armés en Afrique pouvaient être imputables de 97 à 2010 sur l'augmentation du prix des ressources minières, c'est pour aussi avoir une lecture sur la volatilité. Alors, j'ai une question de Philippe qui demande, est-ce que la crise économique majeure, entre parenthèses, encore latente, la baisse des ressources disponibles avec les fermetures des commerces augmentait la conflictualité et donc préfigure-t-il de la naissance d'un conflit en... Alors, FR, j'imagine que c'est France. Alors, si vous parlez de la crise économique consécutive à la crise sanitaire que nous connaissons, on a travaillé avec aussi Nicolas Berman, que j'inviterai la prochaine fois à venir aussi à parler avec vous, et Roy Ticou et Nathalie Monet, on a travaillé sur les conséquences des confinements dans les pays sur la conflictualité. Ce qu'on montre, c'est quand vous regardez donc l'évolution dans le temps de la conflictualité, que ce soit tout ce qui peut être mouvements sociaux, manifestations ou conflits et conflits armés, excusez-moi. Ce qu'on constate, c'est que un mois après la fermeture, hein, des pays et des confinements, on a une baisse drastique des mouvements sociaux, on a une baisse drastique des manifestations, et que passé 6-7 semaines après ces confinements dans les pays, en moyenne, le niveau de manifestation revient à son niveau initial, y compris dans les pays où il y a toujours le principe de toujours quand les pays sont fermés, hein, ce qui indique du coup que la crise économique a eu une réponse en termes de mouvements sociaux, notamment, je vous dis, 6 ou 7 semaines après le début des confinements dans les pays. En ce qui concerne les conflits armés, là, on n'a pas d'effet le premier ou le deuxième mois. Par contre, on observe une augmentation de la conflictualité des groupes armés par rapport à ce qui se passait avant la fermeture et la fermeture des pays et les confinements après 7 ou 8 semaines. D'accord? Donc, sur les conflits armés, on observe une augmentation 2 mois environ après les confinements. Et ça, c'est des effets qui sont d'autant plus forts que c'est des pays où il y a des tensions sociales, économiques, religieuses et ethniques et des systèmes autocratique. Okay. Donc ça, c'est le cas. Maintenant, sur la naissance d'un conflit et si FR signifie pour la France, je saurais pas, ça dépend comment on définit la notion de conflit. Là, il faut bien comprendre quand même qu'on est sur des notions de conflit, tout ce que je vous ai raconté sur ces mécanismes en Afrique, on est sur des populations avec des niveaux de pauvreté, une absence d'État qui a rien à voir avec le cas des pays d'Europe de l'Ouest. Donc, c'est compliqué de transposer ce que je vous ai raconté à la question potentielle d'un conflit. Alors après, si vous dites mouvements sociaux en France, probablement, mais là, à nouveau, ça dépasse un petit peu dirais mon champ de recherche qui me permettrait de répondre parfaitement à votre question. Oui, non, non. Alors, bien sûr, on sent la révolte des jeunes. Non, je suis d'accord. Mais c'est toujours vrai. Ça dépend de la définition que vous donnez la notion de conflit. Et voilà. Ce que je vous ai montré, c'est des effets qui peuvent aller jusqu'au génocide. Donc, on est sur des mécanismes économiques, sur des mécanismes d'embrigadement qui sont complètement différents de ceux qu'on peut avoir dans les pays aujourd'hui d'Europe de l'Ouest. Donc, évidemment, si on regarde sur les modèles de mouvements sociaux, de manifestations, etc., évidemment que l'effet de revenu a un effet massif extrêmement important, et donc on peut s'attendre à avoir plus de révoltes, plus de mouvements sociaux. Mais non, de là de dire que ça va se transcrire dans un conflit tel que moi je vous les ai, enfin, je vous l'ai expliqué sur cette lecture-là, ça, je ne crois pas que ce soit les mêmes questions et les mêmes objets. Donc, est-ce que la production d'énergie dans tout ça, je pense par exemple au barrage de la Chine en amont des pays riverains du Mékong. Alors, sur la question de la production énergétique et de l'accès à l'eau, hein, je pense que c'est un peu lié à ça. Oui, donc je voilà, c'est d'avoir qu'une heure et demie, deux heures pour parler. Il y a de la recherche, hein, il y a de la recherche académique, hein, qui nous montre que détourner les cours d'eau, créer des barrages et ces stress hydriques ont effectivement un effet important sur la conflictualité. Et la question des bassins amont, aval et de la dépendance de certains pays à des bassins en amont, ça, c'est effectivement quelque chose qui est aussi crucial. Et on a même de la conflictualité, alors ça va jusqu'à des guerres, mais la conflictualité entre pays basée là-dessus. Donc là aussi, hein, c'est des choses qui sont bien renseignées et qui répondent sur un certain élément théorique que j'ai pu vous présenter aujourd'hui. Alors, la question de Dominique sur est-ce que l'emploi des engrais en Afrique est toujours essentiellement tourné vers les cultures d'exportation et pas pour les cultures vivrières ? Non, alors, c'est un bon point. C'est utilisé dans les deux cas. Tu aurais du mal à vous dire en quelle proportion c'est utilisé pour l'agriculture vivrière ou pour des cultures d'exportation. Nous, ce qu'on réalise dans l'article, il y a un nouvel article de recherche où effectivement, ils montrent aussi un petit peu ces effets-là et les différences de variation de prix quand c'est des prix de biens agricoles qui sont que de la culture vivrière et quand c'est que des biens agricoles pour l'exportation. Et ils montrent, hein, effectivement que l'effet, il est vrai dans les deux cas, mais que c'est surtout pour les cultures d'exportation que les variations de prix sont le plus corrélées au conflit. Voilà. J'ai une question d'Agnès sur tout ce que vous expliquez s'applique à quel continent ? Alors, une partie des résultats que je vais vous montrer, c'est pour le continent africain. Pourquoi le continent africain ? Deux raisons. La première, c'est que malheureusement, c'est là qu'ont lieu la plupart des guerres, une grande partie des guerres et des conflits armés, des guerres civiles. Deuxième raison, c'est que historiquement, depuis 1997, c'est sur cette zone-là que sont collectées les données microéconomique, avec la géolocalisation des événements, les participants, les différents groupes qui participent, la nature de la violence. Et donc, du coup, de fait, c'est devenu un élément d'étude privilégié sur ces questions-là, de par la disponibilité des données. Maintenant, il y a énormément d'autres articles qui montrent, qui mettent en exergue pour l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, mais également l'Asie du Sud-Est, du rôle joué par les chocs de revenus dans la diffusion de la conflictualité, à la fois dans le temps et dans l'espace, avec des méthodologies qui sont relativement proches de ce que je vous ai montré, hein, c'est-à-dire des variations de prix, des chutes de production liées à des chocs hydriques, à des chocs climatiques. Et on a un lien revenu-conflictualité qui existe aussi sur ces continents. Le papier sur la Colombie, hein, est un exemple parmi tant d'autres de très bons articles de recherche publiés sur ces questions-là, en dehors du contexte africain. Alors, est-ce qu'il y a des économistes du conflit qui s'essayent à la prédiction ? Une question de Siméon, pardon, excusez-moi. Est-ce qu'il y a des économistes du conflit qui s'essayent à la prédiction ? Et si oui, avez-vous quelques auteurs vers lesquels renvoyer ? Alors, il y a un certain nombre d'économistes, et notamment un très bon collègue à Barcelone, Hannes Müller, qui essaye de faire de la prédiction de conflit. C'est une très forte demande qui est réalisée par les institutions aussi internationales pour essayer de mieux prévoir les conflits, notamment parce que la conséquence de conflits, c'est que c'est des dizaines, des centaines de milliers de personnes qui sont mises sur la route. Et malheureusement, toutes les organisations, notamment les organisations en charge des migrants, constatent l'arrivée des migrants une fois qu'ils sont là. Et donc, du coup, il y a toujours extrêmement compliqué de les accueillir dans des conditions dignes. Et donc, il y a cette volonté de mieux comprendre où sont les événements un peu plus en temps réel et d'avoir un peu plus de prédictions, notamment à des fins, hein, de politique d'accueil de ces populations qui seraient expulsées de leur pays par rapport au conflit. Et donc, effectivement, à partir de données satellitaires, notamment sur les bâtiments, la destruction des bâtiments, et à partir d'outils de machine learning, il y a un certain nombre de chercheurs, notamment donc Agnès Müller, qui travaillent à la question de la prédiction. Mais Siméon, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez plus d'informations à cet égard. Mais oui, les économistes du conflit s'intéressent aussi à la question de la prédiction. C'est un peu la vertu, je dirais, supplémentaire de ces modèles empiriques que j'ai pu vous montrer aujourd'hui, c'est avoir un peu de prédiction. C'est-à-dire ce que vous disiez tout à l'heure sur l'anecdote sur la Banque mondiale, c'est-à-dire qu'on a pu estimer à partir de nos modèles quelles étaient les zones, les régions qui, a priori, allaient être s'ouvrir au commerce, qui pouvaient être potentiellement les plus instables liées à ces variations de revenus induites par le flux de commerce.